Priorité Santé. Claire Hédon.
Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent pour cette deuxième partie de Priorité Santé. Aujourd'hui, nous parlons de la prévention des risques chez les usagers de drogue. C'est notre dernière émission consacrée à la 20e conférence internationale sur le sida qui se déroule en ce moment à Melbourne, en Australie. Pour en parler avec moi, le professeur Michel Kazatchkine, qui est envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la lutte contre le sida en Europe de l'Est et en Asie centrale. Olivier Maguet, qui est référent sida, hépatite virale et trésorier de Médecins du Monde. Et Marie Suzan, qui est chargée de recherche au CNRS et à l'INSERM et qui a mené une étude pour l'ANRS, l'Agence nationale de recherche sur le sida et les hépatites. Marie-Suzan, justement, je voudrais qu'on reparle de l'étude que vous avez menée avec l'ANRS, donc une étude ARLI, accompagnement et éducation aux risques liés à l'injection. On parlait dans la première partie de l'émission de ce qu'on appelle les salles de shoot, c'est-à-dire ces centres d'injection de drogue sous supervision médicale. Finalement, l'étude que vous avez menée, est-ce que c'est pas un peu, ça ressemble un peu pas à des salles de shoot, justement?
Cette étude, je pense qu'elle va au-delà. Une salle de shoot, c'est un endroit où on met à disposition des personnes qui veulent injecter de la drogue, tout le matériel dont elles ont besoin et un lieu sécurisé où elles peuvent faire cette pratique d'injection dans un contexte protégé, avec une assistance médicale selon les endroits. C'est ce que décrivait Michel Kazatchkine pour la salle de shoot de Sydney. Je pense que l'essai d'intervention à Airly va au-delà de ça, puisque non seulement, bien évidemment, on met à disposition des personnes tout le matériel stérile dont elles ont besoin, mais en plus, la présence de pairs au moment où la personne pratique son injection permet de travailler directement avec la personne sur les différents moments de l'injection où elle doit faire porter sa vigilance pour justement limiter encore plus les risques d'infection par les hépatites ou le risque de complications locales. Comme il a été dit plus tôt, hein, le virus des hépatites est hautement plus transmissible que celui du VIH. Donc, avoir une seringue propre et une aiguille propre ne suffit pas à limiter le risque d'infection par les hépatites. Il faut aussi être très très vigilant à tout ce qui est autour de l'injection, c'est-à-dire la façon dont on prépare son produit, la façon dont on le filtre. Donc, c'est tous ces gestes-là qui sont examinés par le pair éducateur avec la personne au moment où elle fait son injection. Et donc, c'est par cette observation de la pratique individuelle que, avec des échanges avec la personne qui injecte, le pair éducateur définit avec elle-même les points auxquels elle doit être vigilante et qu'elle peut améliorer par la suite pour mieux prendre soin de sa santé.
Olivier Maguet, vous êtes d'accord avec ça? Effectivement, ça va plus loin qu'une simple salle de shoot?
Oui, puis surtout, c'est deux choses différentes. Une salle de shoot, c'est un dispositif. C'est comme une maternité, une clinique, un hôpital. Donc, c'est un lieu. Un lieu avec des intervenants professionnels, non professionnels, issus de la communauté, donc y compris usagers de drogue, qui vont accueillir les bénéficiaires. L'éducation au risque lié à l'injection, après, c'est une méthode d'intervention qui va pouvoir être démultipliée, justement, dans les salles de shoot. Donc, ne confondons pas les deux. Et de nouveau, et j'insiste là-dessus, hein, j'y reviens, pour lutter contre cette transmissibilité beaucoup plus facile, entre guillemets, hein, du virus de l'hépatite C par rapport à celle du VIH, il faut intervenir sur l'ensemble de la chaîne des pratiques d'injection. En deux mots pour nos auditeurs, s'injecter, c'est pas uniquement enfoncer une aiguille dans la veine. C'est préparer son produit, c'est préparer le point d'injection, c'est une fois qu'on a fini de s'injecter, enlever l'aiguille, c'est arrêter le saignement. Tous ces petits gestes qui sont autant de points supplémentaires dans la chaîne de transmission que nous n'avons pas pour le VIH. Et donc, des programmes d'éducation au risque lié à l'injection permettent d'intervenir sur l'ensemble de ces actes. Et là, ça a une efficacité qui est très grande. Et nous le savons depuis jeudi, la présentation des résultats de l'étude, que ça marche, que ça marche.
On en est où en France, justement, de l'autorisation de ces salles de shoot?
On en est en France dans le climat que nous venions d'évoquer de façon générale sur peut-être une distorsion entre les attentes de la population, les attentes des professionnels de santé, les attentes des usagers eux-mêmes, d'un côté, et les responsables en charge des politiques publiques. Le panel animé par Michel mardi l'a aussi montré sur les politiques des drogues telles qu'elles sont aujourd'hui définies par les États et par les gouvernements, sont largement inadaptées par rapport à ces besoins de santé. Donc, en France, la France n'échappe pas, en fait, à ce mouvement un petit peu mondial de frilosité. Sur le fond, nous, on l'a porté, donc, et on le porte, hein, ce Médecin du Monde, ce projet de salle de consommation avec un centre de soins à Paris qui s'appelle Gaïa. Quand on a rencontré Jean-Marc Ayrault, quand nous avons rencontré Marisol Touraine, quand nous avons rencontré les gens qui sont aux affaires, comme on dit aujourd'hui, on les prend individuellement, ils sont plutôt pour. Après, la difficulté, elle est d'assumer ce qui pourrait apparaître comme un peu gênant d'un point de vue politique. Et donc, du coup, on a un manque de courage. Individuellement, ce ne sont pas des mauvaises personnes, ce ne sont pas des mauvais bougres, comme disait ma grand-mère. Ils sont plutôt partants. Mais quand il faut passer à l'acte et assumer, c'est plus compliqué. Alors que, je le disais tout à l'heure, lorsque l'on discute par ailleurs avec les gens qui habitent en proximité, ce que nous avons fait, nous sommes allés voir tous les habitants de l'immeuble qui va être à côté de ces salles de consommation, et bien après quelques heures de discussion, ils sont tous convaincus de l'intérêt. Donc voilà,
la France... Et vous êtes allé voir le nouveau Premier ministre, Manuel Valls ? Parce que là, vous parliez de Jean-Marc Ayrault, mais c'était l'équipe d'avant.
Oui, alors, le problème, si vous voulez, c'est qu'il n'y avait que les salles de consommation en France. Voilà, et on a aussi beaucoup de problèmes, comme vous le savez, sur les migrants qui sont inquiétés en ce moment, sur les Roms, donc beaucoup aussi de problèmes de santé publique qui sont associés à ça. C'est triste, mais c'est comme ça. Donc là, dans les premiers rendez-vous avec Manuel Valls, ils ont été consacrés à ces problématiques-là. Maintenant, le dossier reprend. Nous avons rencontré la personne qui est en charge de la mise en œuvre de la politique des drogues en France, qui est donc Madame Danielle Journay-Ménager, la présidente de la mission interministérielle. Nous avons un calendrier qui nous était indiqué par le gouvernement, avec un passage au Parlement donc en octobre. Comme nous sommes des gens bien élevés, nous allons attendre le mois d'octobre pour voir si la proposition de loi qui va effectivement permettre de créer un cadre légal pour cette salle de consommation est adoptée. Et si elle ne l'est pas, en tant qu'acteur de la société civile, nous prendrons nos responsabilités comme nous les avons prises en 1989 lorsque nous avons mis en place le premier programme d'échange de seringues en France, alors que c'était illégal.
En clair, vous allez démarrer des salles de shoot même si vous n'avez pas l'autorisation, c'est ce que j'entends.
En clair, nous répondrons à la responsabilité qui est la nôtre de réduire les écarts justement auprès de ces populations qui ne bénéficient pas des progrès dont on parlait tout à l'heure. Donc oui, nous le ferons, c'est une autre façon de le dire.
Oui,
je voudrais, par rapport Marie-Suzanne. À ce que vient de développer Olivier, je suis tout à fait d'accord avec tout ce qu'il vient de dire. Je voudrais juste simplement rajouter que l'association Aide est exactement sur la même position que celle de Médecins du Monde et que les centres, les CARUT de Aide et le Bus Gaïa de Médecins du Monde qui ont participé à l'étude à Early, bien évidemment, ne vont pas arrêter maintenant ces interventions, maintenant que l'étude est terminée, dans l'espoir que peut-être un jour la loi évolue. Donc là aussi, l'association Aide est sur la même position que Médecins du Monde et va autoriser ses équipes à continuer ces interventions.
Et les CARUD, c'est les centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour les usagers de drogue. Professeur Michel Kazatchkine, qu'est-ce que vous pensez des politiques français ? Ils sont frileux ?
Bon, d'abord, ils sont évidemment frileux à ouvrir à nouveau un débat de société qui n'est pas tout simplement dans un clivage gauche-droite, mais qui clive au sein de la gauche comme il clive au sein de la droite. C'est d'ailleurs vrai, je crois, en ce moment, dans toute l'Europe. Ce n'est pas un problème strictement français, mais derrière cela, il y a quand même une majorité de gens qui pensent de façon très simpliste qu'il y a quelque chose de mauvais dans le fait d'utiliser une drogue et qu'il faut absolument qu'un jour les personnes qui utilisent des drogues s'arrêtent de les utiliser. Et quelque part, ça biaise ensuite le raisonnement. Alors que ce que nous disons, c'est qu'il faut comprendre qu'il y a des gens qui utilisent des drogues, comme il y a des gens qui boivent de l'alcool, comme il y a des gens qui fument, comme il y a des gens qui ont d'autres addictions, et que ces gens qui s'injectent des drogues sont à haut risque pour leur santé et pour la santé de la population en général s'ils n'accèdent pas à des interventions que l'on connaît et de santé publique et qui sont efficaces. Donc nous ne portons aucun jugement, nous sommes des médecins au service de la santé de ces gens et au service de la santé des populations. Voilà la démarche. Et je crois que si le politique, quelque part, entrait dans cette démarche de santé publique plutôt que d'entrer dans tout ce qui est chargé des considérations sociétales, culturelles, politiques ou religieuses sur ces questions, ce serait beaucoup plus facile.
Mardi, là, à Melbourne, hein, pour cette conférence internationale sur le sida, il y a eu une session qui concernait les politiques en matière de drogue, politiques qui sont pratiquement uniquement répressives. Vous préparez un rapport sur cette question, mais peut-être avant d'en parler, parlez-nous de la Nouvelle-Zélande qui est justement une exception par rapport à ces politiques répressives.
Oui, pour parler de la Nouvelle-Zélande, il faut d'abord que je dise que, à côté des drogues classiques que tout le monde connaît, on voit maintenant dans le monde une augmentation de la consommation de nouvelles drogues, qu'on appelle les nouvelles substances psychoactives, c'est le terme technique, qui sont des drogues de synthèse, donc comme un produit chimique dont on ferait la synthèse au laboratoire, mais là il s'agit de petits laboratoires artisanaux.
Qui sont beaucoup en Asie ?
qui sont beaucoup en Asie, en Europe de l'Est, mais aussi dans les Amériques et en Europe. Donc partout dans le monde. Et parmi ces produits, dont beaucoup sont des cocktails, notamment à base de certains produits pharmaceutiques que l'on connaît déjà largement, ces drogues peuvent faire des dégâts absolument considérables. La Nouvelle-Zélande vient d'avoir une démarche très intéressante, c'est de dire, prenons certaines de ces drogues que les gens consomment à titre récréatif, celles dont on sait qu'elles ont peu de risques en elles-mêmes dans la consommation, et proposons aux gens qui les fabriquent d'avoir la même démarche que pour le tabac, c'est-à-dire de déposer un dossier aux autorités de santé de Nouvelle-Zélande qui présente exactement ce que l'on connaît des risques de ces drogues, de les mettre dans des paquets sur lesquels il est inscrit que la consommation du produit peut être dangereux, de faire en sorte que ces produits ne seront pas vendus aux gens de moins de 18 ans, de faire en sorte qu'il n'y ait pas de publicité. Mais par contre, si vous consommez ces drogues, vous ne serez pas arrêté, vous ne serez pas l'objet d'amende, vous ne serez pas l'objet de poursuites pénales. En quelque sorte, c'est une démarche qui entre dans la légalisation, régulation, c'est-à-dire de passer du système actuel, encore une fois, dont je ne comprends pas le fondement, qui est de dire ces drogues, il est interdit de prendre de la drogue, système qui a complètement échoué dans le monde, qui a mené au marché criminel parallèle. On ne peut pas interdire un produit. Dès lors qu'on l'interdit, il sera consommé, produit, vendu par des circuits parallèles. On ne va pas l'interdire, mais on va le laisser entrer sur le marché sous contrôle gouvernemental, exactement comme on le fait pour le tabac. Je ne dis pas que la lutte contre le tabac a fait l'objet d'énormes succès dans le monde, et l'alcool encore moins, mais elle a fait l'objet de grands progrès. Il y a de moins en moins de gens qui fument. Il y a de plus en plus de gens qui connaissent les dangers du tabac. Dans ma génération, les femmes enceintes, il y a 30 ans, fumaient. Maintenant, les femmes enceintes savent tous qu'il est dangereux de fumer et de consommer de l'alcool pendant la grossesse. La prise de conscience est là dès lors que le gouvernement intervient. Et je crois que la démarche que vous évoquiez en Nouvelle-Zélande, comme la démarche qu'à l'échelle mondiale prône la Commission internationale pour la réforme des politiques publiques en matière de drogue, c'est une démarche qui vise à dire « arrêtons ». La prohibition pour arrêter les marchés parallèles et pour remettre les gouvernements en contrôle de la situation. L'expérience de Nouvelle-Zélande, moi je crois, sera particulièrement intéressante à suivre, comme il sera intéressant de suivre ce qui se passe au Colorado, dans l'État de Washington ou en Uruguay avec la légalisation, régulation du cannabis.
Vous préparez justement un rapport sur l'impact de ces politiques répressives en matière de drogue. Quel est justement l'impact? Vous commenciez à le dire, là c'est un échec, mais pourquoi c'est un échec?
L'impact, c'est d'abord, c'est effectivement un échec, puisque dans les 40 dernières années, alors qu'on a investi des milliards dans la lutte contre la drogue, la consommation de drogue a augmenté, la production d'opiacés s'est accrue de 400%. Les drogues sont de plus en plus faciles à obtenir, elles sont de meilleure qualité, à moindre prix, et dès lors qu'on introduit, on interdit une drogue, une autre arrive sur le marché, maintenant avec les drogues synthétiques, dès lors qu'on bloque un point à une frontière, il y en a un autre qui s'ouvre, d'où la filière qui arrive maintenant par les zones portuaires en Afrique, et singulièrement en Afrique de l'Ouest. Bref, c'est une passoire. Le système a non seulement échoué de ce point de vue, mais pour ce qui nous rassemble ici aujourd'hui et à Melbourne, ce système a été à l'origine d'une épidémie gravissime du sida et d'hépatite dans les populations s'injectant des drogues, qui elle-même diffuse à la population générale. Elle a donc créé une alerte et un fléau majeur de santé publique. Parce que dès lors que vous êtes un injecteur de drogue en Russie, en Thaïlande, que vous savez qu'à tout moment vous pouvez être arrêté, mis en prison, subir des violences policières, vous n'allez pas vous rendre comme ça facilement dans un centre ou un Caroud qui n'existe pas pour vous faire dépister et soigner. Vous allez vous cacher, vous allez devoir injecter dans des conditions qui évidemment vous mettent à haut risque. Et le résultat est que ces politiques répressives, je crois que c'est un point très clair du rapport de cette commission, ces politiques répressives sont à l'origine d'un grand fléau de santé publique. Et en ça, c'est pour nous, médecins, absolument inacceptable.
Marie-Suzan, je vois faire oui de la tête.
Je suis entièrement d'accord avec ce que vient de dire Michel Kazatchkine. On a effectivement l'amalgame extrêmement dangereux qui a conduit à cette épidémie dont il vient de parler, l'amalgame entre les utilisateurs et le trafic. Parce que la loi répressive, et en France on a cette loi de 1970 qui est bien celle qui aujourd'hui réprime que ce soit l'usage ou le trafic de drogue, tout ça est dans le même texte. Et donc ce sont effectivement des amalgames extrêmement dangereux d'un point de vue de santé publique.
Parce que j'aimerais rappeler que ces lois reposent toutes sur un ensemble de traités internationaux qui ont été signés dans les années 60, 70 et 80, donc avant l'épidémie du sida et de l'hépatite. Et ces conventions, on oublie pourquoi elles ont été faites. Elles ont été faites au départ pour que les gens qui ont besoin des opiacés, qui ont besoin à titre médical, notamment les gens qui souffrent et qui ont besoin de ces médicaments comme médicaments antidouleurs, puissent les obtenir dans les meilleures conditions. Et ces conventions étaient là pour le bien-être de la santé publique. Or, le résultat, 40 ans après, c'est que parce qu'elles se sont transformées en politique prohibitionniste, d'une part, les gens qui en ont besoin n'ont pas accès aux médicaments antidouleurs dans le monde, en particulier dans le monde en développement, bien sûr, et d'autre part, les politiques prohibitionnistes se sont transformées en politiques répressives. Ces politiques répressives n'arrêtent pas les grands trafiquants, par contre, elles ne cessent d'arrêter les petits dealers ou les usagers qui finissent en prison, qui finissent exclus de la société et à grand risque de ces infections dont nous parlons.
Priorité santé sur RFI.
Aujourd'hui, dans Priorité santé sur RFI, nous sommes à Melbourne, en Australie, pour la 20e conférence internationale sur le sida. On est en train de parler des usagers de drogue. Vous aviez envie de réagir, Olivier Maguet, à ce que vient de dire le professeur Kazatchkine.
Moi, j'aime bien raisonner avec des images parfois. Donc, je pense que nos auditeurs connaissent tous l'histoire de la prohibition de l'alcool aux États-Unis, Eliot Ness, ils ont vu les films, etc. C'est un petit peu la même situation. Il y a un moment, les États-Unis d'Amérique décident d'interdire l'alcool. Qu'est-ce qui se passe? Ben, ça crée Al Capone, ça crée de la criminalité, ça crée du trafic, et donc on voit les voitures avec Eliot Ness qui se poursuivent. Et puis, ben, ça crée des vrais problèmes de santé publique et de l'alcool frelaté, parce que quoi qu'il arrive, c'est la passoire, comme le disait Michel, donc ça va rentrer, mais avec des mauvais produits, de mauvaise qualité. Donc, ça fait écho à la démarche responsable de la Nouvelle-Zélande, hein, dont nous parlions tout à l'heure.
Donc la prohibition, ça ne marche pas.
Ça ne marche pas. Puis du coup, on sait que ça ne marche pas uniquement sur les produits qui nous réunissent aujourd'hui, ces drogues dites illicites, mais on sait historiquement, ça n'a pas marché pour un produit qui en France est très légal, qui s'appelle de l'alcool. Donc voilà, c'est pour bien montrer que ce principe même de prohibition, quand il s'éloigne des principes de santé publique qu'on rappelait, eh ben ça marche pas, et surtout, c'est, non seulement ça marche pas, mais c'est contre-productif, et ça coûte cher, hein, en vie humaine et en argent.
Olivier Maguet, j'aimerais bien que vous nous parliez un peu de ce que fait Médecins du Monde sur le continent africain, justement, pour prendre en charge ces usagers de drogue. Vous avez entre autres un programme à Dar es Salaam. Notre reporter Igor Strauss s'était rendu sur place pour voir justement ce que vous faites.
Le continent africain est une bonne illustration de ces écarts croissants entre ceux qui bénéficient des progrès que nous avons constatés depuis 15 ans dans la lutte contre le sida et puis ceux qui n'y ont pas accès. Et dans ces personnes qui n'y ont pas accès, très clairement sur le continent africain, nous avons les personnes utilisant des drogues. Un exemple très concret, il y a 54 pays sur le continent. Sur les 54 pays, il n'y en a que 3 aujourd'hui, et je dis bien 3, qui ont ce qu'on appelle l'offre combinée, traitement de substitution aux opiacés, donc qui permet de sortir de la drogue de rue pour faire court et de rentrer dans un programme médical, et programme d'échange de seringues, le Maroc, l'île Maurice et la Tanzanie. Alors après, il y a des projets dans d'autres pays, donc autant dire zéro à l'échelle.
Projet à Dakar, entre autres.
Projet à Dakar, entre autres, qui devrait ouvrir cette année sur la méthadone. On a un petit peu d'échange de seringues, il y a de l'échange de seringues aussi au Kenya. Alors après, on peut trouver par le biais de la médecine privée, hein, du bricolage dans certains des autres pays, mais on n'est pas du coup dans une approche de santé publique classique. Donc, quoi qu'il arrive, même en ajoutant Dakar, on est loin du compte par rapport aux 54 pays. Ce qui fait que aujourd'hui, si on estime qu'en moyenne une personne sur deux vivant avec le VIH-Sida sur le continent africain et étant en besoin de traitement antirétroviral y a effectivement accès, hein, 50%, donc ce qui nous amène à ce chiffre de 12 à 13 millions de personnes aujourd'hui dans le monde. Quand on rentre plus concrètement parmi les personnes utilisant des drogues, ben c'est quasiment 0%. Donc là, on voit bien qu'il est nécessaire d'outiller le continent africain. Et en revanche, là, nous avons une vraie chance, je conclurai là-dessus, c'est que grâce, entre guillemets, à la nécessité de répondre à une épidémie qui était massive et généralisée en matière donc, de VIH-Sida sur le continent africain, nous avons énormément d'associations issues de la société civile, d'associations communautaires et qui ont fait un travail, qui font toujours un travail magnifique dans la lutte contre le sida. Donc les ressources sont là. Notre responsabilité maintenant est de montrer que c'est possible aussi de mettre en place des programmes ciblant les personnes utilisant des drogues sur le continent africain, que ça marche, que c'est acceptable, que c'est faisable. Donc c'est la preuve par l'exemple, les pays que nous citions. Et après, très rapidement, c'est former toutes ces associations qui existent. Et moi, je tiens à le souligner, c'est important, y compris par rapport aux questions de financement de la lutte contre le sida. C'est pas de repartir de zéro et de créer des centres de nulle part. Nous avons toute l'infrastructure qui existe sur le continent. À nous de l'ouvrir, hein, d'ouvrir les horizons, d'ouvrir les esprits et de former aussi, parce que ça demande un tout petit peu de compétences, mais ça on sait faire, c'est notre travail. Donc l'enjeu est là, et voilà pourquoi Médecins du Monde, dans les années qui viennent, va continuer d'ouvrir des programmes comme ça pour, à terme, les transformer en centres de formation et de ressources très pratico-pratiques pour que les professionnels de santé africains et que les associations africaines de lutte contre le sida viennent se former et qu'on puisse très rapidement développer cette offre.
Juste de façon brève, mais Olivier Maguet, il y a énormément d'urgence en termes de santé sur le continent africain. J'imagine qu'on vous renvoie de temps en temps la question, est-ce que l'urgence c'est de s'occuper des usagers de drogue quand il y en a autant sur le continent africain ?
Oui, mais en même temps, c'est ce que je vous répondais, c'est que souvent, derrière la question de l'urgence, il y a la question de l'allocation des ressources publiques. Et nous sommes tous conscients que nous sommes dans un monde où la ressource publique, l'argent public devient un bien rare, quelque part. Donc là, ce que nous proposons, justement, à travers des programmes dits un petit peu modèles ou pilotes sur l'ensemble du continent, c'est bien de montrer que ça existe, de ne pas les démultiplier et d'investir les structures existantes qui sont déjà financées. Donc ça règle la question de l'urgence. Et ça permettra à d'autres urgences sanitaires de bénéficier des moyens qui auront été épargnés, si vous voulez. Et en plus, pour revenir sur le débat général que nous avions tout à l'heure, si on évite une épidémie croissance d'hépatite C, dont la prise en charge aujourd'hui est beaucoup plus chère que celle du VIH-Sida, ça fera des économies supplémentaires qui permettront de répondre à d'autres urgences sanitaires.
Professeur Kazatchkine, vous vouliez réagir.
Oui, l'argent, il est là. Il ne s'agit pas de prendre de l'argent d'un programme de santé pour le mettre dans un autre programme de santé. Il s'agit de prendre de l'argent dans les sommes énormes, de centaines de milliards qui sont investis dans la répression sans effet, pour les mettre dans les programmes d'intervention à l'égard des usagers de drogue qui mettent la santé publique en priorité. Donc je ne crois pas que nous demandions de mettre en compétition des programmes de santé les uns avec les autres. Nous demandons que le monde constate que la prohibition et la répression n'ont pas marché et que donc de cet effort considérable financier, même 10% de cet argent changerait complètement l'image de la santé publique, de l'argent pour des programmes centrés sur la santé.
Marie Sudan.
Oui, je voudrais juste rajouter en plus que l'argent qui est investi sur la prévention, ça permet à long terme des économies à très large échelle sur les coûts de la santé quand les gens sont infectés et doivent être pris en charge. Donc,
c'est rentable d'investir dans la prévention.
Mais absolument, et c'est ça, c'est un peu le message qui est quand même toujours encore très difficile de faire passer, c'est que aujourd'hui, bien évidemment, même si l'effort qui serait à faire maintenant sur la prévention coûte bien évidemment, c'est quand même à plus long terme des économies à très grande échelle sur les coûts de la santé.
Olivier Maguet.
Oui, un chiffre pour peut-être conclure sur cette histoire-là. Revenons sur la situation française et l'argent qui est dépensé dans la répression. On estime que ce qu'on appelle le coût social des drogues, c'est-à-dire pas uniquement la répression, mais réparer les dégâts qui ont été causés par ça, y compris mettre du pansement social dans les quartiers qui souffrent aujourd'hui des trafics, ça représente à peu près 1% de PIB, c'est-à-dire 20 milliards d'euros par an. Au moment où le gouvernement veut faire un plan d'économie de 50 milliards d'euros, on a déjà une source d'économie qui est potentielle. En parallèle à ces 20 milliards d'euros, je mettrai le coût du système de prise en charge des usagers de drogue par le biais des centres spécialisés dont parlait Marie-Suzan, les CARUD, et les centres de soins pour usagers de drogue. On est sur 500 à 600 millions d'euros par an. Donc 20 milliards d'un côté en dépenses pour une passoire et 500 millions, 600 millions pour du soin. Donc l'argent, oui, il est là, on en a, ça s'appelle réallouer la ressource publique de façon différente.
Michel Kazatchkine.
Un autre chiffre, le trafic illicite, dont nous disons qu'il est la conséquence de la prohibition, c'est quelque part le quatrième business dans le monde, et c'est de l'ordre de 400 milliards de dollars par an.
Pour terminer cette émission, professeur Michel Kazatchkine, je voudrais vous poser juste une dernière question. Vous êtes envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la lutte contre le sida en Europe de l'Est et en Asie centrale. Récemment, dans Priorité Santé, vous nous avez parlé de la situation en Crimée. On en est où, justement, de la situation des programmes de prévention des risques pour les usagers de drogue en Crimée depuis l'annexion par la Russie ?
On dispose encore de peu d'informations. Ce que nous savons, c'est qu'un certain nombre de personnes se sont vues offertes par la Fédération de Russie de venir à Moscou ou à Saint-Pétersbourg pour y bénéficier de ce qu'on appelle des techniques de réhabilitation, entre guillemets, c'est-à-dire des techniques de soins essentiellement basées sur des entretiens psychologiques en Russie. Nous ne savons pas ce que sont devenues ces personnes. Il y a des articles qui disent qu'elles sont bien intégrées actuellement en soins, et il y a d'autres publications sur Internet qui ironisent sur le fait qu'elles sont arrivées dans les grandes villes russes et qu'elles n'ont trouvé aucune structure de soins et qu'elles n'ont même pas d'argent pour repartir en Crimée. Ce qui est surtout plus grave, c'est qu'il y a déjà au moins 20 personnes de ce groupe de personnes qui étaient en traitement substitutif en Crimée depuis des années, qui sont mortes, et nous ne savons pas exactement les causes, très vraisemblablement des overdoses. C'est en cours d'être documenté, et quelque part à l'automne, j'espère pouvoir apporter un rapport public sur les conséquences injustifiées et tragiques de cette décision des autorités russes d'arrêter les programmes de substitution en Crimée.
On en reparlera quand vous sortirez ce rapport. Merci beaucoup, professeur Michel Kazatchkine, Olivier Maguet et Marie-Suzan. Merci à toute l'équipe de Priorité Santé, Didier Bleu, Assez Toussamaké, Jeanne Cherquefaux. C'était donc la dernière émission de notre série consacrée à la 20e conférence internationale sur le sida qui se déroule en ce moment à Melbourne, en Australie. À demain.